tes interventions au CFMD, elles consistaient en quoi?
Alors, mon intervention en fait au CFMD, c'était plutôt avoir une oreille et une écoute en fait entre les gens qui représentaient la réglementation, donc ministère des Transports et autres, entre bien entendu les transporteurs. Et l'intérêt de ce passage au CFMD, c'était surtout de pouvoir mettre en place des actions qui nous permettent d'améliorer la sécurité dans le transport des marchandises dangereuses.
Dans ces actions, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a été proposé, mis en place ?
Mais dans ces actions, alors exemple tout simple, avant que une partie de la 104 soit ouverte, on avait donc mobilisé, en fait, on avait simulé un accident de citerne, avec différents intervenants, entre autres le client s'appelait la Shell France, avec des produits relativement sensibles. Nous avions en fait, sans avertir bien entendu les pompiers du département du 95, nous avons simulé un accident et pour voir un petit peu quelle était la réaction, quel était le temps d'intervention ainsi que le résultat obtenu lors d'un accident relativement grave, relativement lourd. Et effectivement, on a pu juger de l'efficacité des différents services d'intervention. Autre chose, j'ai participé aussi à ce qu'on appelle du développement d'outils d'intervention, puisque les pompiers, le service des pompiers donc développent certains outils spécifiques à des interventions relatives au transport de matières dangereuses. Effectivement, on a pu simuler avec des renversements de citernes, avec des fuites de produits, quelle était en fait l'efficacité de certains outils qui allaient être utilisés par les pompiers qui sont spécialisés sur ce type d'intervention.
Cette cellule des pompiers se trouve où ?
Alors, il y en a une qui se trouve en fait sur la francilienne, du côté de Marne-la-Vallée, et qui est vraiment spécialisée sur le transport de matières dangereuses, puisqu'entre autres, ils ont un PC équipé de renifleurs, c'est-à-dire de testeurs en fait, qui permettent d'analyser la composition de l'air et donc de déceler tout un tas de produits chimiques qui seraient supposés être en cas de fuite de citernes ou autre, ou de gaz ou de produits liquides, d'identifier très précisément les différents types de gaz contenus dans l'atmosphère. Alors, le but de ces simulations et de ces interventions, c'est bien entendu d'optimiser en fait le résultat de ces interventions. Quand on parle d'optimisation, c'est bien entendu la priorité, c'est la sécurité des personnes, la sécurité des biens et aussi la sécurité de l'environnement. Voilà, c'est les trois points principaux. Mais principalement, je le dis, je le répète, c'est la sécurité des personnes.
Est-ce que ces cellules d'intervention ont conscience de la connaissance de la différence qui peut exister entre le monde de la matière neuve et le monde du déchet, comment ils le prennent en compte, comment ils l'appréhendent?
Je pense pas, puisqu'on a plus souvent, on a très souvent travaillé sur des produits nobles. Et pourquoi? Parce que rarement d'abord on transporte par exemple des déchets dangereux en citerne. C'est assez, si on fait la comparaison des volumes transportés en matière noble et en déchets, je pense que, comme on dit, il n'y a pas photo. Je pense que le monde du déchet, du transport de déchets mais classé dangereux, n'est pas connu en fait des services d'intervention, ou peu connu.
Ça voudrait dire qu'il y a peu d'accidents dans le monde des déchets dangereux?
Ça veut dire que c'est tout simple en fait. Je pense que c'est tout simplement mathématique. On dit souvent que le monde du déchet, on transporte nos déchets autour du clocher. On fait en fait très peu de kilomètres, contrairement en fait au transport national ou international de matières dangereuses, où effectivement on parcourt un nombre de kilomètres relativement important et de ce fait on augmente le risque.
À ton avis, y a-t-il des périodes de l'année ou des périodes de l'année où il peut être susceptible d'avoir plus d'accidents sur la route?
Alors, ça c'est très difficile. Enfin, la réponse elle est pas très, très facile, mais on a quand même une idée. Moi je sais que j'ai une idée par rapport par exemple à l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Le nombre d'accidents c'était souvent après le week-end, après les périodes de repos, où en fait le métabolisme n'a pas eu le temps de reprendre ses marques, et souvent l'accident est dû à un assoupissement du conducteur, et donc renversement sur la chaussée. Mais il n'y a pas de règles bien définies, parce que contrairement aux idées reçues, les accidents ont lieu, enfin le nombre d'accidents le plus élevé, c'est bien souvent quand il fait beau, par temps sec plutôt que par temps d'intempéries, glace, verglas, neige. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le conducteur est plus vigilant au volant.
Parce que quand je relève les accidents qu'on voit par exemple à l'UIC, donc l'Union des industries chimiques, qu'on voit souvent aussi l'été comme, qui apparaît comme une zone à risque par l'effet des remplacements,
alors, le manque de personnel. Il y a ça, il y a aussi un phénomène qui n'est pas très bien connu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, les conducteurs qui sont spécialisés sur le transport chimique, je parle en citerne, ont un style de conduite qui est parfaitement adapté en fait à ce type de transport, à savoir qu'il y a très souvent un déplacement du liquide, et on rapproche souvent la conduite des citerniers à des conducteurs d'autobus ou d'autocars, donc une conduite très très souple. Par contre, un phénomène qui est complètement occulté, on appelle ça le verglas d'été. Beaucoup de personnes ne le savent pas, même les automobilistes, à savoir si on passe 2 semaines, 3 semaines de temps sec et beau, ben, il y a un dépôt en fait d'hydrocarbures et d'autres produits qui se déposent sur la route. Et en fait, sur un orage très ponctuel mais assez violent, ben, on va créer en fait une espèce de couche huileuse qui fait qu'à un moment donné, ben, il va y avoir une perte d'adhérence, et il va y avoir un risque bien entendu d'accident, voire de renversement. Alors souvent les gens, c'est vrai, sont surpris. Quand vous dites « je comprends pas, il faisait un petit orage, j'ai freiné, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule », ben, tout simplement, c'est le fameux verglas d'été.